Bienvenue à l'Église Connexion. Pour ceux qui ne me connaîtront pas, mon nom est Danny Desrosiers. Je suis un des leaders ici à l'Église. Et ce matin, c'est moi qui vais apporter la parole de Dieu. Donc, bienvenue à l'Église. Et avant d'aller dans la prédication, on va demander aux préposés à l'offrande de bien vouloir s'avancer, que le Seigneur puisse bénir cette offrande, qu'il puisse nous donner la sagesse pour utiliser les fonds de façon intelligente pour la gloire de son nom. Amen. Vous pouvez y aller, on va passer les offrandes. Et vous allez bien? Est-ce que je vous ai dit bonne année 2024? C'est-tu trop tard? On est rendu le 14 janvier. Dis-les, mais après ça, il commence à être tard, là. Hein? Bon. Comme vous le savez probablement par le visuel qu'on a mis dans les dernières semaines, hein, le 1er janvier 2024, bien, notre Église a changé de nom. Hein, c'est l'Église Connexion. Et l'année dernière, vraiment, après plusieurs rencontres de consultation avec différentes personnes, des temps de prière, on a choisi le nom de l'Église, Église Connexion, qui avec évidemment le choix d'un nom, il vient le choix d'une image ou d'un logo qui doit vraiment représenter ce nom-là, puis il doit représenter notre Église, sa vision. Puis pour en arriver au logo, on a consulté différentes personnes, dont un graphiste, pour nous aider à élaborer le produit fini. Et vraiment, après plusieurs esquisses, on a joué au ping-pong un peu. Vous savez comment ça marche, le ping-pong? On se lance la balle, elle revient, on se lance la balle, elle revient. Et puis, le tout a été accepté, puis présenté à la réunion annuelle, ça a été entériné. Mais maintenant que le nom puis le logo ont finalement été en vigueur depuis le 1er janvier, on m'a confié le mandat ce matin de vous présenter la signification de ce logo. Parce qu'il est important de comprendre ce que ça veut dire. Parce que quand on voit une image, si on ne comprend pas ce que ça veut dire, on manque un petit peu de la raison pour laquelle on a établi cette image-là. Puis je vais commencer ce matin vraiment avec une image pour vous exprimer un petit peu ce que je veux dire. Combien ce matin ont déjà vu une image, un dessin, qui à première vue ne voulait rien dire vraiment, là? Mais plus qu'on le regarde, plus qu'on y voit une signification différente. Si on fait juste regarder ça puis l'éteindre, on ne voit pas grand-chose. Mais qu'est-ce que vous voyez dans cette image?
Madame.
Deux visages. Hein? Mais si on regarde vite, il y en a qui n'en voient juste un, puis il y en a qui en voient deux, puis il y en a qui n'en voient pas pantoute. C'est un peu ce que faisait allusion le pasteur Romain la semaine dernière quand il disait « un artiste, c'est comme ça hein? ». Vous avez probablement déjà été dans des endroits où il y a des toiles. Puis moi, je regarde la toile, puis j'ai comme l'impression que quelqu'un s'est promené avec des cannes de peinture, il les a ouvertes, puis il a garoché ça sur le plancher. Puis après ça, il a mis ça sur un mur, puis là, pour cette personne-là, ça a une signification importante. Fait que tout ça pour dire que pour plusieurs, ce n'est qu'un dessin, mais à première vue, ça ne veut rien dire, mais c'est des fois, il faut prendre le temps de regarder. Puis vraiment, ce matin, c'est ce que je vais faire, c'est expliquer notre logo. Et pour faire ça, bien, j'ai intitulé le message « Unis dans une même foi ». Et pour débuter, on va lire un verset de la parole dans 1 Jean 5, 20. Je pense qu'il va être affiché à l'écran. 1 Jean 5, 20. Le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta parole et on te prie que ce matin, ce message puisse nous révéler, Seigneur, la profondeur, la grandeur de ton amour pour nous et puisse nous unir dans une vision et dans une foi commune dans le nom puissant de Jésus. Et tous ont dit Amen. Vraiment, notre Église, l'Église Connexion, j'ai cru bon de débuter avec ce verset qui nous déclare de façon impérative que la seule personne qui peut unir les personnes de toutes les nations, de tous les horizons et de toutes les générations, le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le seul vrai Dieu et c'est lui qui est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est venu. C'est lui qui s'est révélé à nous. C'est lui le seul vrai Dieu qui nous appelle à être unis avec lui, pour qu'on soit en union avec le Saint-Esprit, comme lui est en union avec le Saint-Esprit. Il nous appelle à être unis avec le Père par Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est uni avec son Père. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour bâtir son Église. C'est pour ça que dans le logo, on a mis un « E » qui représente l'Église. Matthieu 16, 38, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Malgré toutes les attaques que pourrait subir l'Église de Jésus-Christ, elle vaincra. Cette pierre sur laquelle Jésus a bâti son Église, ce n'est pas l'apôtre Pierre lui-même, mais c'est la déclaration qu'il a faite avant. Simon-Pierre a dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le bâtisseur de l'Église, c'est nul autre que Jésus-Christ lui-même. Et de même, le bâtisseur de l'Église Connexion de Rimouski ne doit être nul autre que Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui, à partir de rien d'autre que sa parole, a créé l'univers dans lequel nous vivons. C'est lui par qui et pour qui tout a été créé. Jésus, c'est lui la tête de l'Église. C'est lui le roi des Juifs, le roi du ciel de la terre, le roi de gloire, le roi des rois, le plus grand personnage de l'histoire de l'humanité, le Fils de Dieu, le sauveur des pécheurs, le centre de la civilisation. Rien ni personne n'est comme lui. Il donne force aux faibles. Il est disponible pour surmonter tentations et épreuves. Amen. Il délivre le captif. Il répand ce qui est brisé. En lui est contenue toute la connaissance, toute la sagesse, toute la vérité, car il est lui-même connaissance, sagesse et vérité. Et bien qu'il soit infiniment grand, infiniment puissant, infiniment glorieux, infiniment saint, il nous appelle, vous et moi, simples pécheurs, à entrer en relation avec lui. On est béni. Il nous appelle à être en relation avec lui. En d'autres mots, il nous appelle à être en connexion avec lui. Et c'est pour ça qu'on a mis un C dans notre Église, pour Église, dans notre logo, Église Connexion. L'Église Connexion, c'est une Église composée de personnes qui sont en connexion avec Dieu par Jésus-Christ, en connexion avec Dieu par la prière, par la parole, par la louange, en connexion les uns avec les autres et en connexion avec la communauté. C'est ce qu'on désire pour chaque personne qui fréquente l'Église Connexion. L'Église Connexion, une Église connectée. Qui peut faire partie de son Église? Eh bien, c'est des personnes comme toi, comme moi, comme lui, comme elle, comme nous. Et c'est pour ça qu'on a différentes personnes. Ça représente une personne, une tête avec un corps. Pour ceux qui ne l'avaient pas réalisé, c'est comme une personne. Et le bâtisseur de son Église, Jésus, a choisi comme matériau des hommes et des femmes imparfaites qui répondent à son appel qui, lui, est universel. L'Église de Jésus-Christ, elle est universelle. Ce n'est pas une petite clique exclusive, mais tous sont appelés. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de la misère, du repos. » Jésus a dit, se tenant debout, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Venez, mangez de mon pain. Son pain, c'est le pain de vie. » Trouvez-en une offre meilleure que celle-là, si vous pouvez. Ésaïe 55 nous dit, « Venez, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas une scène. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, et on achète sans argent et sans rien payer. » Ouais, Jésus bâtit son Église avec des matériaux souillés, des hommes, des femmes, des enfants de toutes les nations qui sont pécheurs et qui, par nature, sont séparés de Dieu. Et alors qu'on vit dans une époque où l'inclusivité est mise de l'avant, il n'y a personne ni rien qui est plus inclusif que Jésus-Christ. Et bien que Jésus soit inclusif et que tous sont appelés à venir à lui, la réconciliation avec le Père, elle, elle est exclusive à Jésus-Christ. C'est Jésus, ni rien, ni personne d'autre que Jésus-Christ, exclusivement. Ceux qui viennent à lui doivent venir avec un cœur repentant et non pas demander à Jésus-Christ de s'adapter à leur style de vie, mais d'adapter leur style de vie à la pureté et à la sainteté de Jésus-Christ qui peut nous transformer de gloire en gloire et de victoire en victoire par son Esprit. Amen. Ceux qui viennent à lui doivent venir avec un cœur repentant, prêt à crucifier la chair et ses désirs et désireux de se laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas une communauté aussi, puis une communauté ça, puis une communauté ça. Il y a des chrétiens lavés par le sang de Jésus-Christ. Et ceux qui viennent à lui, Jésus en fait des saints en position devant lui, et avec eux, il construit son Église. Avec eux et à travers eux. Éphésiens 2 nous dit, au verset 20, il nous parle d'une construction. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui le fondement. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes, si vous avez reçu le Fils de Dieu, une habitation de Dieu. Jésus-Christ étant lui-même, nous dit le verset, la pierre angulaire, donc l'élément essentiel, le fondement de son Église. Et c'est pourquoi, dans notre logo, on a un poisson. Il va apparaître bientôt. Ça, c'est un poisson. Un poisson vient faire au centre de notre logo. Un poisson qui regarde en avant. On remercie le Seigneur pour les 50 ans passés, mais on veut regarder en avant, vers l'avenir. En mettant le poisson au centre du logo, on déclare que Jésus-Christ doit être au centre de tout ce qu'on fait, de toutes nos actions, et que c'est lui qui nous unit. Qu'est-ce que le poisson vient faire là-dedans? Dans l'histoire de la chrétienté, le poisson, C'est un des symboles les plus durables et appréciés par la chrétienté après la croix. En fait, le poisson était effectivement le symbole de la chrétienté avant la croix. À partir du 2e jusqu'au 4e siècle, alors que l'empereur Constantin, à l'époque, a changé le poisson par la croix. Et bien que plusieurs personnes arborent ce sigle, ce logo, sur leur bumper de voiture, dans leur vitre de char, sur le top de leur calotte, il n'y en a pas beaucoup qui savent vraiment qu'est-ce que le poisson veut dire. Il y en a qui pensent que le poisson, c'est un symbole du christianisme parce que Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. D'autres pensent que le poisson est un symbole du christianisme parce que plusieurs des apôtres que Jésus a choisis étaient en fait des pêcheurs de poissons. D'autres pensent que c'est parce que dans Luc 5:10, Jésus a dit « Simon, ne crains point, désormais tu seras un pêcheur, poisson, d'hommes. » Puis tout ça, c'est tout vrai. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle le poisson a été utilisé comme un symbole. En fait, le poisson provient d'un acronyme. En utilisant des lettres d'un mot grec, le mot grec « poisson », qui se prononce, on va juste vous le présenter à l'écran, ichthus. Ichthus. Ça veut dire poisson. Mais ça voulait dire Jésus, Jésus, Christos, Théo, Dieu, Ios, Fils, Soter, d'où le mot sotériologie, là, la doctrine du salut, là, ça vient de Soter. Ça veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et lorsqu'on met ça, ichthus, ça fait le mot poisson, mais chaque lettre veut dire un mot, c'est ce qu'on appelle un acronyme. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Puis vraiment, à l'époque, le sigle du poisson était utilisé comme un mot de passe. Parce qu'à l'époque, les croyants, ce n'étaient pas les favoris du peuple. On avait tendance à les donner, je ne sais pas pourquoi, en nourriture aux lions, à les brûler vifs. Et là, il s'est formé une église souterraine qui a pris naissance, le symbole du poisson qui servait à identifier les lieux de rencontre, parce que l'église était à la cachette, elle ne pouvait pas se rencontrer publiquement. Il était répandu, ce symbole-là, depuis longtemps, par des religions de toutes sortes. Donc, il était plus incognito, moins visible qu'une croix ou qu'un autre symbole. Ça servait aussi à identifier la maison des croyants. Puis parfois même, les gens au travail, ils avaient ce symbole-là entre eux, puis ils se reconnaissaient comme croyants. Ou si tu voyageais, les gens, ce qu'ils faisaient, ils prenaient un bâton, puis là, ils faisaient comme une arche comme ça. Puis si l'autre répliquait avec une arche comme ça, qui faisait le poisson, ils s'identifiaient tous les deux comme étant des croyants. Ils savaient que tous les deux avaient reconnu que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Sauveur. Et peut-être qu'un jour, on devra recourir à un sigle pour s'identifier, parce que la manière que le monde s'en va, on est béni en Amérique du Nord, mais ça pourrait changer. On pourrait être interdit un jour à se réunir en public, sait-on jamais, je ne veux pas vous épeurer, mais on ne sait pas. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, partie intégrante de la Trinité éternelle. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ n'est pas un bon enseignant. Jésus-Christ est Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Ce n'est pas une faute de français. Je suis, car il est le grand je suis. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau pur, sans tache, qui a vécu une vie pure, sans tache, crucifié sur la croix. Il a versé son sang. il a reçu sur lui le châtiment que méritent mes fautes et les tiennes aussi. Si tu veux le reconnaître, il a reçu nos fautes. D'où la nécessité pour nous, encore en 2023, de prêcher la croix. Parce que la croix, c'est ce qui nous rend libres. La croix, c'est ce qui brise les chaînes. À la croix, c'est là où l'ennemi de notre âme a été vaincu. On peut le présenter, la croix, vous la voyez, la croix, elle est là. Pour ceux qui ne l'avaient pas vue, elle est là. On a une belle croix dans notre logo. Et par elle, l'ennemi fut vaincu. 1 Corinthiens 1, 17, on peut le présenter à l'écran. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais disons-le ensemble, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Verset 23, « Or, nous prêchons un Messie crucifié. » Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Une Église qui ne prêche pas la croix n'est pas une Église. C'est un club social. L'Église doit prêcher la croix, parce que c'est là, à la croix, que la victoire sur la mort a été acquise, que l'ennemi a été vaincu. Et c'est là, à la croix, par sa crucifixion, que nos péchés ont été pardonnés. La croix, c'est ce qui va propulser ta vie ici-bas vers l'avenir, vers le progrès, vers la victoire. Et la croix, frères et sœurs, c'est ça et rien d'autre qui nous propulse vers le ciel. C'est cette croix-là qui nous permet d'entrer dans le ciel. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par ma bonté, ce n'est pas par mon attendance à l'Église. Ce qui me propulse au ciel, ce n'est rien d'autre que la croix de Jésus-Christ. C'est Jésus. Voilà l'essentiel du message prêché par l'Église depuis plus de 2000 ans. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et justement, parce que ça fait 2000 ans, c'est essentiel pour nous d'être fermes dans les croyances fondamentales du christianisme, mais de faire preuve d'ouverture et de grâce envers ceux qui ont des positions théologiques sur des éléments secondaires ou tertiaires qui sont différents des nôtres. En d'autres mots, je ne suis pas appelé à amener les gens à mes convictions, mais je suis appelé à amener les gens à Jésus-Christ. Et pour ça qu'on a une tête ouverte, il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas être borné dans notre dogme, tant qu'aux éléments qui sont non fondamentaux. Et tout au long de l'histoire, il y a émergé des vérités, je dirais, qui sont différentes, qui donnent différentes interprétations sur des événements qui sont passés ou à venir. Par exemple, longe la terre, es-tu vieille, es-tu jeune? Calviniste, es-tu Jean Calvin ou arminianiste de Jacob Arminius qui a raison? C'est-à-dire, est-ce la prédestination ou la libre volonté de l'homme de recevoir ou de rejeter Christ? L'enlèvement, va-t-il avoir lieu avant, pendant ou après? C'est qui l'Antéchrist? C'est lui! Jésus va revenir telle date! Et aujourd'hui, via Internet, on a accès à des milliers de personnes avec toutes sortes de positions théologiques, toutes aussi variées les unes que les autres, du plus conservateur qui aimerait avoir une église du type médiéval, avec musique des années 1600-1500 et avec un code vestimentaire de l'époque, au plus progressiste qui aimerait avoir une église avec des shows de boucanes puis une doctrine mondaine, dénudée de la croix, en passant par des faux prophètes qui utilisent vraiment juste le nom de Jésus comme une carte de visite, mais qui n'ont aucune conception de la vraie chrétienté. Ils prêchent une fausse évangile. Se servant du nom de Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'ils parlent de Jésus qu'il est sauvé nécessairement. Et on doit faire attention, faire preuve de prudence, parce qu'il y a toutes sortes de cochonneries qui sont annoncées sur l'Internet au nom de Jésus-Christ. Et si je peux vous donner un petit commentaire personnel, ces gens-là, on ne les connaît pas. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vivent. Ils sont beaux sur le net, mais comment est-ce qu'ils sont dans leur vie de tous les jours? On n'a aucune idée. Donc, on doit être prudent et faire preuve de discernement, de prudence et de voir à l'unité en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous a fait part de paroles sages concernant ce phénomène qui n'est pas nouveau. Dans 1 Corinthiens 1:10, on va l'avoir à l'écran, même s'il est petit, vous pouvez suivre dans vos bibles aussi. Et Paul, de toute son âme, je le vois supplier, l'âme aux yeux, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, « Moi, je me rattache à Paul. » Et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à un tel, et moi à une telle, et moi à Christ. Là, un tel, une telle, ça c'est moi qui ai rajouté ça. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et on poursuit dans 1 Corinthiens 3, verset 4. Quand l'un dit, « Moi, je me rattache à Paul », et un autre, « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animé par votre nature? C'est ta chair qui te fait agir de même, mon chum. Ta nature, t'aimerais que les autres pensent comme toi, tout le temps, sur tout. Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante et celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Pas la construction de Dany, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Dany. À savoir Jésus-Christ. C'est lui le fondement. C'est lui que l'on doit glorifier. C'est vers lui qu'on doit se rallier. C'est vers lui, Jésus-Christ, doit être notre fondement. Et deux personnes matures dans le Seigneur devraient être capables d'échanger sur des positions secondaires et tertiaires sans se chicaner et focaliser sur le fondement Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Une personne mature devrait comprendre que tous ne pensent pas comme lui ou comme elle. Puis c'est bien correct. Et bien qu'on doit faire preuve d'ouverture d'esprit pour ce qui est des éléments secondaires ou tertiaires, on doit être ferme en ce qui concerne la saine doctrine. Et si on regarde à notre constitution d'Église, à la constitution de l'Assemblée des assemblées de Pentecôte du Canada à laquelle on est affilié. Je ne dis pas que c'est nécessairement complet, mais ça touche principalement les vérités fondamentales, la Bible, le Dieu trinitaire, la création, le salut, le baptême de l'Esprit et le rétablissement de l'Église. L'Église et le rétablissement de l'Église. Et si je devais paraphraser les doctrines fondamentales, tout en réalisant que dans ma paraphrase, je ne prétends pas qu'elle est pleinement inclusive de tous les éléments essentiels, mais je dirais ceci. Nous croyons que ce livre, la Bible, est inspiré du Saint-Esprit, du premier mot de la Genèse au dernier mot de l'Apocalypse. Nous croyons que ce livre est l'autorité suprême en matière de foi et en matière de relation entre Dieu et les hommes. La Bible nous révèle qu'au commencement, Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ont créé le ciel et la terre et tout l'univers. Dieu a également créé l'homme, la femme, et les a mis dans le jardin. Dieu a donné un commandement perpétuel à l'homme. Dieu a promis à l'homme la vie s'il obéissait à ce commandement et la mort s'il désobéissait. Pato. L'homme, malheureusement, a désobéi. La femme aussi, en passant. Il a mangé le fruit. Et parce que l'homme a désobéi, le péché est entré dans le monde et la mort par le péché. Et tout homme né de l'homme ou de la femme, héritant de cette nature pécheresse, chaque homme, chaque femme qui naît sur cette terre vient au monde avec cette nature pécheresse. Et notre monde est brisé à cause de ce péché. Et on est coupable devant ce Dieu juste et saint. Dieu, dans sa bonté, nous a envoyé son Fils, le deuxième Adam, Jésus-Christ, qui est né de la Vierge. Oui, c'est important, parce que s'il n'est pas né de la Vierge, il est qu'un homme comme vous et moi, il est porteur de la nature pécheresse, ce qui n'est pas le cas Christ est né de la Vierge. Il a mené une vie pure et sans tache. Il a obéi complètement et parfaitement à la loi divine, contrairement au premier Adam. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Lui, sans péché, a été fait péché pour nous, le juste qui meurt pour l'injuste. L'édit qui a été écrit contre nous, la condamnation écrite contre nous a été crucifié à la croix. Et notre péché est transféré sur Christ. Et la justice de Christ est transférée sur nous. Et tous ceux qui mettent leur foi dans ce sacrifice de Christ, de Jésus, sont sauvés, sont sanctifiés, sont justifiés. Étant justifiés, l'Esprit de Dieu vient et habite en nous afin de nous sanctifier, de nous transformer progressivement à la ressemblance de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on ait atteint la stature parfaite de Christ. Et ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu son Esprit, forment l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Et l'Église existe pour répandre la bonne nouvelle, baptiser les nés de nouveau, se remémorer la mort et la résurrection de Christ en prenant le repos du Seigneur. Les membres de son Église vivent sur cette terre. Ils savent dans leur fort intérieur que cette terre n'est pas leur patrie et ils sont en attente d'une patrie céleste. Êtes-vous en attente d'une patrie céleste, d'une maison éternelle ce matin? Les membres de son Église vivent sur cette terre et sachent que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, faisant de nous des justifiés, des sanctifiés et des glorifiés. À la gloire de son nom, retrouvant ainsi finalement une connexion avec le Père, sans péché, sans souffrance, sans mort, sans larmes, comme celle du début, le rétablissement de la relation. Et nous serons éternellement dans la sainte présence de Dieu, là où aucune larme ne coulera, là où nous serons éternellement dans un état de reconnaissance. Et malheureusement, ceux qui refusent de reconnaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Sauveur, seront séparés de lui éternellement. Voilà l'Évangile que nous devons défendre, Mordicus. Voilà l'Évangile que nous devons prêcher. Et alors que nous sommes toujours ici-bas sur terre, en attendant son retour glorieux. Êtes-vous dans l'attente de son retour glorieux?
Amen.
Nous devons répondre à la grande commission que Jésus nous a confiée. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde sombre, un monde noir. C'est pour ça que dans notre logo, on a mis le noir comme arrière-plan. On vit dans un monde sombre. Mais nous portons en nous un trésor plus précieux que l'or, si l'or peut pas apparaître. Mais tout comme l'or, ce trésor que nous portons en nous, ni la rouille, ni la teigne ne peut l'atteindre. Et de plus, lorsque la lumière du Saint-Esprit brille là-dessus, l'or brille dans la noirceur. Et lorsque la lumière du Saint-Esprit brille sur nous, nous brillons dans un monde de noirceur. Veux-tu briller? Prie! Prie, tu vas briller. Et ce trésor que nous portons doit être Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Ainsi, par la conviction du Saint-Esprit, d'autres seront convaincus que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Sauveur. Eux aussi, s'ils viennent à la repentance, vont naître de nouveau, seront également habités du Saint-Esprit et joindront ainsi son Église, une Église dont les membres ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui, en pardonnant nos péchés, nous rend devant lui plus blanc que neige pour former une Église plus blanche que neige devant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est mis blanc. On vit dans un monde de noirceur. Nous portons un trésor qui amène les gens, qui nous a amenés à vivre une vie devant Dieu plus blanc que neige. L'Église de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, l'Église Connexion. À ce moment ici, je demanderai aux musiciens de s'avancer, s'il vous plaît. Combien parmi vous aiment plus notre logo maintenant qu'avant? Il est si beau, notre logo, à cette heure. Il est si beau, notre logo, à cette heure. Moi, je l'aime, notre logo. Pas à cause de l'image, mais à cause de ce qu'il représente. Et je vous invite à vous approprier du message contenu dans ce logo. Une Église composée de personnes venant de tous les horizons, de toutes les nations. Une Église connectée avec Dieu. Une Église connectée les uns avec les autres et connectée avec la communauté. Une Église qui fait de Jésus-Christ Fils de Dieu, Sauveur, le centre de tout. Une Église composée de membres ouverts d'esprit, mais fermes en ce qui a trait à la saine doctrine. Une Église qui prêche la croix de Jésus dans un monde sombre. Une Église qui porte et qui partage ce trésor que ni la teigne, ni la rouille ne peut atteindre. Chers frères, chères sœurs, vous avez en vous le plus grand des trésors, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Une Église qui partage ce trésor que ni la teigne, ni la rouille ne peut atteindre. Une Église en position, bien évidemment, devant Dieu, plus blanc que neige, mais qui a besoin encore de se faire travailler par la puissance du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'on ait atteint la stature parfaite de Jésus-Christ. Et il n'y a personne d'ici qui est parfait. Et s'il y avait une personne additionnelle qui dirait « Moi, je ne veux pas à cette Église-là parce qu'elle est imparfaite », la mesure, la minute que cette personne-là rentrerait, elle serait encore plus imparfaite. Nous sommes imparfaits. Une Église plus blanche que neige par les mérites du sang de Christ qui présente au monde celui qui peut également les blanchir afin qu'eux aussi puissent un jour participer au redressement de toute chose. Que doit être le centre de notre Église? Je vous invite à le dire tout haut, tout fort. Fils de Dieu, Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et si tu ne retiens que cela, j'aurai gagné une bataille. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Sois-y, mon frère.
Notre Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois. Sainte Église, je crois à la résurrection.